9h24, minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102 à partir de 10h. Ce sera Pascal Caron-Vézina qui va être dans le point de Max, c'est tout ça?
Oui, en plein ça. Voilà. Pascal CV, point de Max, et par la suite l'émission d'En Jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et Antonine Iaccarini.
Ça va être le point de Pascal. Par la suite, Jeff va être là avec son équipe. Denis va être là avec Véro. C'est une soirée de couple, un après-midi de couple. Denis et Véro qui se retrouvent seuls, Audrey qui est en vacances. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, comme à chaque lundi, avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui sera des nôtres dès 18h. Vous avez des choses à nous dire? Par texto, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Nous, on s'en va sur Zoom présentement avec notre ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est là, comme à chaque lundi. Fidèle au poste, il est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Salut, Nick!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. As-tu passé un beau week-end?
Oui, quand même relax. C'était un beau début de printemps, je peux dire ça de même. Pas fait grand-chose, j'ai pas grand-chose à raconter sur les deux derniers jours, mais c'était juste agréable de voir le changement de température. Le changement d'heure, il avait fait un peu mal, par exemple, samedi dans la nuit, mais sinon, pour le reste, ça va super bien.
Ouais, on a l'impression qu'hier, on a couru après notre heure toute la journée, hein? Hey, il est déjà 5 heures, hein, faut souper. Hey, il est déjà 5 heures, hein, faut souper. On n'est pas habitué, ça va revenir à la normale dans les prochains jours. Nick, le budget du Québec va être annoncé le 18 mars prochain. C'est quoi tes attentes à la Fédération canadienne des contribuables? Est-ce qu'on va avoir des nananes? Est-ce qu'on va avoir une meilleure rigueur du budget? T'attends-tu un déficit un peu moins qu'escompté?
Ça, c'est des bonnes questions parce que c'est côté de déficit, j'ai très hâte de voir si le gouvernement va avoir fait ses devoirs de son côté, d'avoir réduit les dépenses, d'avoir bel et bien réduit les effectifs. On se rappelle de la promesse de Mme Duranceau de couper pas loin de 2000 postes au courant de la dernière année. Donc, on devrait voir les résultats dans le budget qui va être déposé la semaine prochaine. Cependant, Éric Girard a quand même été assez clair puis a tempéré les attentes un peu trop à mon goût en disant qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des baisses d'impôts. Ce à quoi je dois répondre sincèrement, que je suis très déçu parce qu'il faut se rappeler que la CAQ, en 2022, quand ils ont été réélus, ils promettaient des baisses d'impôts de 2,5 points de pourcentage sur les deux premiers paliers d'imposition. Puis finalement, ils ont juste livré 1 point de pourcentage en baisse, ce qui a été livré en juillet 2023. Mais le reste de la baisse d'impôts était finalement livré sur les 6 années en 2026 et 2032. Donc, 0,25 points de pourcentage jusqu'en 2032, donc par année. Et ça devait donc être livré dès cette année. On devait avoir une autre baisse d'impôts qui était simplement la suite de ce qui avait été promis en 2022. Or, si on n'a pas ça de livré, ben c'est une promesse qui est officiellement brisée par la CAQ. On n'aura donc pas eu pleinement la baisse d'impôts promise dans les dernières élections. Donc je serais très déçu, surtout que dans le contexte actuel, faut rappeler que le coût de la vie est quand même encore difficilement accessible pour bien des gens. On sait aussi avec l'explosion du prix de l'essence présentement, ça va se refléter sur le portefeuille des automobilistes, des familles, des agriculteurs, des camionneurs. Bref, il y a plusieurs composants de l'économie qui aimeraient peut-être avoir un répit, ne serait-ce que temporaire, pour faire face aux circonstances actuelles. Puis là, ben, on nous dit de tempérer nos attentes à ce niveau-là. Il n'y aura pas de nanane ou autre. Ça va être des mesures ciblées, donc des crédits d'impôt, possiblement des investissements stratégiques, pour ne pas dire ici des subventions. Finalement, le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, ce qu'il nous dit, c'est que ça va se faire sur 5 ans. J'ai juste une chose à dire là-dessus. Là. Monsieur Girard sera plus là dans 6 mois si on se base sur les projections actuelles, en tout respect. Donc, qu'il me dise ce qui va se passer dans 5 ans, c'est bien beau, mais dans 6 mois, tu ne seras plus là. Donc, je veux dire, merci pour l'effort. Là. Ça sera peut-être un plan qui va être cohérent, mais on va attendre de voir ce qu'en pensent les agences de crédit avant d'établir si c'est crédible ou pas. Donc, on verra bien la semaine prochaine. J'étais peut-être à Québec, j'étais peut-être au huis clos également. Donc, on pourra s'en parler là, une fois sur place.
Oui, c'est votre séance de sado-maso aux 6 mois à peu près. Là.
Oui, on nous kidnappe donc essentiellement à 10h. C'est drôle dit de même, mais à 10h AM, le huis clos budgétaire, c'est quand même toujours particulier parce que ça ne fonctionne pas de la même manière dans toutes les provinces, ni même au fédéral. Parce que j'ai déjà fait un huis clos le budgétaire en Ontario, puis là-bas, c'est... T'étais pas enfermé dans une pièce pendant 6 heures de temps, mais à Québec, tu rentres à 10h AM au centre des congrès, tu mets ton téléphone dans une enveloppe, tu le fermes et tu peux juste le récupérer à 4 h p.m. Donc, il n'y a pas de bruit qui rentre ni qui sort de cette salle-là tant si longtemps que le ministre des Finances n'a pas commencé son discours à l'Assemblée nationale. Voilà, il va falloir prendre notre mal en patience. Puis surtout, si c'est des mauvaises surprises, parce que moi, je veux dire, à 10 h 10, je suis au courant du déficit. Là. À 10 h 10, j'ai vu le cadre financier puis je vois déjà de trois quarts des mauvaises nouvelles. Fait que moi, je dois garder mon mal en patience jusqu'à 4 h p.m. après ça. C'est quand même un challenge, ouais. mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, comme je dis, c'est le dernier budget d'Éric Girard, donc on a hâte de voir si ça en aura valu la peine.
Écoute, Nick, t'es notre espion. Donc, le 18 mars, j'ai des chums qui nous écoutent présentement, qui sont au centre de détention de Québec. Ils vont te donner des trucs pour faire rentrer un téléphone à l'intérieur des murs. Es-tu d'accord?
Malheureusement, j'ai d'abord refusé parce que, honnêtement, c'est niaiseux à
dire. C'est gros, un téléphone.
Je sais pas si c'est considéré comme un crime ou autre, mais ce que je sais, c'est que si jamais vous commettez une telle chose, une telle infraction, vous ne serez plus réinvité au huis clos budgétaire. Fait que tu parles d'un genre d'accès VIP à un événement qui est quand même intéressant pour ceux qui, comme moi, aiment lire des budgets. Donc, on n'est pas très nombreux, mais
non,
quand même.
Non.
Fait que, bien hâte de voir ça.
Mais ça prend des gens comme toi qui se tapent les budgets pour par la suite nous les vulgariser. C'est toujours très apprécié. En fin de semaine, Nick, j'ai mis de l'essence dans ma voiture. Sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Pamphile, j'ai mis 1,69. Donc, 1,69 du litre. J'étais carré ça à 20. Puis quand j'ai monté d'Inter jusqu'à Saint-Pamphile, là, j'étais à 1,39 $. Donc, 30 cents de différence entre deux essenceries qui sont à quelques kilomètres de distance. Des fois, c'est assez difficile de s'expliquer la différence de 30 cents, là, on va se le dire. Mais ça devrait aider le gouvernement, là, parce que plus l'essence est élevée, plus les taxes perçues sont élevées aussi.
Oui, bien inévitablement, le gouvernement il va quand même profiter de l'explosion des prix de l'essence parce qu'au nombre de taxes qu'on paye dessus, on a une taxe provinciale sur les carburants, on a une taxe au fédéral, on a une taxe d'assises, on a également la TVQ et la TPS qui s'appliquent, on a une taxe carbone au Québec, il faut le rappeler, qui est pas loin de 10 cents. Et en plus, on a une double taxation parce que les TPS et TVQ s'appliquent sur les taxes spécifiques et la taxe carbone. Donc, comme quoi est-ce que le gouvernement va chercher vraiment son lot de taxes à travers tout ça? Et oui, il faut dire, au cours des derniers jours, le prix de l'essence a quand même pas mal explosé. Là, on parle de quasiment 20 cents de plus du litre, là, en même pas quelques jours, selon différentes régions. Et c'est relié au conflit qu'on voit au Moyen-Orient présentement. Puis malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que ça va se résorber tout ça. Surtout que, tu sais, on a un sentiment de déjà-vu présentement. Les gens doivent se rappeler peut-être 2022. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, on a eu à peu près la même situation. Le prix de l'essence a explosé, puis on s'est retrouvé avec des 2 $ le litre dans certaines régions du Québec du jour au lendemain. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai peur qu'on revoie exactement ce qu'on a vu en 2022. On vient de parler du budget, puis du fait qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts, ni peut-être d'autres nananes. Mais la réalité, c'est que en 2022, la CAQ avait absolument rien fait pour aider les automobilistes québécois à justement compenser là, pour l'augmentation drastique du prix de l'essence, alors que dans d'autres régions du Canada, comme vous avez Terre-Neuve et Labrador, vous avez l'Ontario, le Manitoba puis l'Alberta, eux autres, vu qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser de la taxe carbone fédérale à l'époque, ils ont baissé la taxe provinciale sur l'essence, ne serait-ce que temporairement. Puis l'Ontario, ils l'ont fait de manière permanente. Donc, comme quoi est-ce qu'ils ont été en mesure de faire des gestes qui étaient crédibles, qui ont fonctionné pour réduire le coût de l'essence. Puis, tu sais, comme vous voyez présentement, si vous allez sur gasbody.com présentement, vous comparez les provinces, le Québec, on paye pas mal plus cher que toutes ces provinces-là en termes d'essence présentement.
Exact.
Ça s'explique par le nombre de taxes qu'on paye, la taxe carbone, et le fait que nous, on a un gouvernement qui refuse de faire des allègements qui pourraient certainement nous aider présentement.
Ouais, puis ça vient de moi, ça vient pas de la Fédération canadienne des contribuables, là, puis j'ai pas... C'est des hypothèses. Moi, j'ai l'impression que dans certains secteurs au Québec, on se parle pour fixer les coûts de l'essence. Ça donne, c'est probablement la raison pour laquelle certaines régions sont toujours plus élevées qu'ailleurs. Malheureusement, il ne semble pas y avoir d'enquête là-dessus. Denis nous parlait d'un épisode début 2000, hein, c'est ce qu'il nous disait tantôt, où il y a des gens dans la grande région de Québec qui s'étaient fait prendre pour collusion. Et les amendes étaient environ 1 million de dollars. Mais pour eux, 1 million de dollars, c'est de la petite monnaie, là. Ça aurait dû être plus sévère que ça pour que plus jamais ça arrive. L'essence, là, il y a bien des gens qui disent que c'est pas un produit essentiel, mais c'en est un produit essentiel. Puis, by the way, si vous êtes contre le pétrole, tout ce que vous touchez probablement tous les jours, incluant vos cellulaires, ça contient du pétrole aussi. Donc, c'est calculé là-dedans aussi. On est perçu. En tout cas, moi, de mon côté, je suis persuadé que ces gens-là se parlent parce que ça n'a pas de bon sens que, exemple, À Saint-Lambert, on soit toujours plus bas que dans la région de Québec, alors que, je veux dire, c'est à quelques kilomètres de distance, là. Costco vend toujours au plus bas, puis les essenceries qui sont autour du Costco sont toujours beaucoup plus élevées. Il n'y a jamais d'enquête là-dessus. T'sais, pourquoi tu as l'impression... Pourquoi il y a 10 cents de différence, un 15 cents, un 25 cents? Hey, 30 cents de
parce
différence.
Parce que tu es sur le bord de l'autoroute, puis quand il manque d'essence, ils vont gazer chez vous, puis je vais faire une grosse marge de profit.
C'est parce que c'est un produit essentiel. Puis je sais, peut-être, Nick, tu es aussi de la droite économique comme moi, là, mais des fois, sur des produits essentiels, je suis un petit peu plus lousse. Moi, là, les marges de profit du litre là, pour ce qui est des essenceries... Il me semble que je resserrerais ça un peu plus sérieusement parce que ces entreprises-là, c'est clair qu'ils se parlent. C'est clair qu'ils s'en mettent plein les poches.
Ben, le pire, c'est qu'à la base, l'ancien ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, était supposé faire une enquête là-dessus, puis il avait commandé un rapport sur la question des prix de l'essence au Québec puis la dynamique qu'on a, parce que, comme tu l'as mentionné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on a de la difficulté à expliquer au niveau de la différence des prix en différentes régions. Puis des fois, on a des prix qui sont carrément différents. T'sais, je me souviens que pendant un bout, ça coûtait plus cher à Québec de faire le plein qu'à Montréal, même si on a plus de taxes à Montréal qu'à Québec sur le prix de l'essence.
Vous avez 3 cents supplémentaires à Montréal.
Exact, qui est soumis à une double taxation, fait que ça monte à quasiment 5 cents de plus de taxes comme telles. Mais tu sais, au final, je veux dire, oui, il y a également la marge du raffineur ou la marge du distributeur qui peut être soumis à une forme d'interrogation, voire une enquête du gouvernement pour savoir s'il y a bel et bien des pratiques qui sont respectueuses, qui sont légales exact, au niveau commercial. Je pense que ça vaut quand même toujours la peine de surveiller ça. Mais en contrepartie, il faut le dire sincèrement, ce qui gonfle beaucoup le prix de l'essence, qui représente pour moins de 40% de la facture que vous mettez dans votre voiture présentement, c'est les taxes. Donc ça, c'est pas mal là-dessus que le gouvernement peut agir directement présentement pour vous donner un répit. Parce qu'en contrepartie, si on fait une enquête, mettons qu'on regarde le prix de l'essence explosé, puis on sait à quel point les événements géopolitiques ont un impact non négligeable sur le prix de l'essence. Ça, c'est malheureusement ce qui arrive avec un produit mondialisé comme le pétrole. Mais il n'en reste que le temps que l'enquête soit faite, ben, malheureusement, on n'aura pas encore de piste de solution pour aider les gens. Alors que là, ben, on est à 6 mois du déclenchement des élections provinciales. J'aimerais ça voir des propositions. Là, je sais que le Parti conservateur du Québec est déjà là-dessus pour la taxe carbone. Mais j'aimerais savoir c'est quoi les propositions des autres partis politiques pour faire en sorte que ben, les familles, les agriculteurs, les camionneurs et les entreprises qui achètent quand même beaucoup d'essence pour leurs opérations, comme que ces gens-là a un répit, que ces gens-là se fassent au minimum protégés, ne serait-ce que temporairement pour les prochains mois, le temps que le conflit en Iran se résorbe, ou sinon que tout ce qui entoure le fameux détroit d'Hormuz, là, parce que tout ça, c'est lié à un détroit là, où est-ce que pour loin de 20% du pétrole mondial circule présentement, qui est collé sur l'Iran. Donc, tant que ça, c'est pas réglé, on n'est pas sorti du bois, malheureusement. Donc, je dirais que la balle est surtout dans le camp du gouvernement et aussi, oui, à moyen-long terme, faire une enquête sur les pratiques en ce qui a trait à la distribution d'essence au Québec.
Nick, puis des solides amendes, pas 1 million, là, t'as peu, là, ouais. c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions, puis t'as pas le droit de faire affaire en territoire québécois pendant 5 ans. T'es mon salaud.
Les gens qui font de la corruption dans le domaine de la construction, par exemple, c'est pour ça. Les contrats gouvernementaux, paf, t'es barré. T'es barré pour une période de temps, me semble que c'est 5 à 10 ans, dépendamment de l'infraction, donc... Tu payes le prix en tabarouette. Là.
Mais dis-toi que plus le prix de l'essence est élevé, plus le gouvernement perçoit
s'en
des taxes.
Ça met des poches.
Tu penses que le politicien va être de ton bord? Ben mettons non. Gérard, là, qui est en déficit par-dessus déficit, penses-tu qu'il va être là pour nous aider?
Je vais te faire un comparatif. Là. Le gouvernement doit être en beau fusil que la consommation d'alcool est diminuée chez les jeunes. C'est moins de taxes.
Il y a ça. Hey Nick, je t'ai envoyé sur ton Messenger un article de Gabriel Côté. On parle d'un ancien haut dirigeant du CHUM qui a touché 367 000 piastres en quelques mois pour montrer à ses successeurs comment ça marche dans ses souliers après son départ à la retraite. Alors, regarde le sourire de cet homme-là. Là. D'après moi, il a gagné le milliard. Regarde-y la face. Regarde-y la face, Jeff. Regarde ça.
Hé! Hey! Hein? Il est normal heureux, ce gars-là!
Y'a-tu de l'air d'un gars qui se pose la question à combien va être fixé le prix du litre de lait?
Oh que non! Il est heureux, lui! Il a pas peur de la fin du mois! Hein?
Son nom, c'est Jocelyn Boucher. Il a reçu le mandat de soutenir et de conseiller la direction générale. Et à l'époque, quand on lui a donné ce contrat-là, qui est assez particulier, il venait tout juste de quitter son poste de directeur adjoint. Tu vas me dire que c'est un hasard, Jeff?
Sûrement. Ouais. Il y a toujours du hasard dans ces situations-là, Yannick. Pourquoi tu es pessimiste comme ça?
On lui a donné le contrat de 316 000 $ et c'était pour devenir consultant pendant un an et demi, soit jusqu'à la fin mars 2026. En réalité, il a été payé 367 000 piastres pendant cette période-là. Donc, c'est à peu près 20 400 piastres par mois. C'est 51 000 piastres de plus que ce qui avait été prévu au départ.
20 400 piastres par mois.
Tu comprends-tu mieux son sourire?
Oui, je comprends. J'aurais le même sourire. Je pense que je sourirais encore plus.
Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de savoir combien d'heures qu'il travaillait par semaine.
20 000 piastres par mois, mais on ne sait pas.
Mais si on le met sur 40 heures par semaine, là, le monsieur faisait à peu près 117,60 $. Pour expliquer aux gens qui avaient été choisis pour travailler dans l'administration comment bien faire leur travail.
C'est complètement ridicule. Ben oui, le pire, c'est que ça me rappelle la discussion qu'on a eue la semaine passée par rapport au fameux PDG de la Société d'habitation du Québec. Je pense qu'il avait payé environ 267 000 $ par année, justement, puis parce qu'il y a eu recours à un coach qui était essentiellement un coach de gestion pour éduquer celui qui allait succéder à son poste. Le PDG lui-même, on a dû payer un coach justement pour l'aider à s'habituer à son nouveau poste. On a payé 267 000 $ pour ce coach-là. Puis le pire, c'est que les coachs en gestion, généralement, ils font des appels d'offres à titre de consultant, puis ils sont engagés par le gouvernement par la suite. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour M. Jocelyn Boucher dans ce cas-ci. C'est-à-dire qu'il s'en allait à la retraite du CHUM. Il a postulé avec le système d'appel d'offres auprès du CHUM pour offrir ses services de consultant. Ils l'ont engagé avec un salaire qui était quand même donc 316 000 $ sur 18 mois. Finalement, ça a bumpé de 51 000. On est rendu à 367 000 $ sur 18 mois. Puis comme tu l'as mentionné, on ne sait pas combien d'heures il a travaillé exactement. Est-ce que c'était du 2-3 heures semaine ou c'est du 40 heures semaine? Dans tous les cas, pour quelqu'un qui part à la retraite en 18 mois, je pense que déjà cotiser en masse à son REER avec cette belle opportunité de carrière, je ne sais pas quel salaire il faisait en tant que dirigeant au CHUM avant ça, mais ça doit être pas mal dans les mêmes eaux que le salaire de consultant qu'il a perçu. Puis ça donne une idée à quel point finalement, je veux dire, c'est quand même pas mal broche à foin. C'est pas normal que quelqu'un qui a occupé un poste de gestion, du jour au lendemain, peut devenir consultant auprès du gouvernement, ou lobbyiste même, parce que tant qu'à moi, on rentre pas mal dans la même grande catégorie. Des gens qui avaient, en apprenant beaucoup sur les méthodes, les manières de faire dans les relations gouvernementales, ont appris comment fonctionne le système d'appel d'offres, puis trouvent les moyens d'en profiter largement. Maintenant, je suis pas en train de dire que M. Boucher a commis un crime d'aucune manière, mais ça donne une idée à quel point il y a beaucoup de laxisme quand on fait des appels d'offres, puis comment est-ce que beaucoup de personnes arrivent à se faufiler. Puis d'ailleurs, dans l'appel d'offres elle-même qui a été soumise au gouvernement, apparemment, il y a beaucoup d'incohérences et des corrections tardives qui ont été amenées. Donc, il y a peut-être Anguille Souroche rendu là, mais le cas de M. Boucher, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est une pratique qui est malheureusement très répandue dans la fonction publique québécoise et aussi dans le secteur parapublic. Puis ça nous coûte cher, finalement, puis on ne sait pas exactement si on tire des résultats pour cet argent dépensé.
Ben, en effet, Nick, la problématique n'est pas M. Boucher, mais plus le système. T'sais, comment expliquer que les organisations publiques ont toujours besoin d'un conseiller externe quand on paie des hauts salariés 200, 300, 400 000 piastres par année? Ils seraient censés avoir les compétences de gérer leurs employés ou de, justement, porter des changements?
Ben, exact. En même temps, tu sais, c'est pas comme si on manquait de gens dans la fonction publique. Ben non, on n'a pas loin de 609 000 personnes de part et d'autre dans tout le secteur public et parapublic. Si on prend le secteur qui est hors contrôle du dénombrement dans la fonction publique, on monte à pas loin de 625 000 personnes au Québec. On manque pas de gens qui ont une expertise à quelque part, notamment dans le système de santé, qui peuvent servir de consultants ou qui peuvent juste être embauchés directement pour faire ce genre de travail-là. Bref, comme on mentionnait, c'est pas une faute directement à M. Boucher, quoique, comme je disais, l'appel d'offres elle-même semble être problématique à plusieurs niveaux, mais il n'en reste que la pratique elle-même, elle est généralisée. Puis c'est pas pour rien que ça nous coûte cher, cette fonction publique-là. C'est pas juste le nombre, c'est pas juste les salaires, c'est aussi les pratiques, les façons de faire qui font en sorte que les factures explosent. Puis, c'est les contribuables comme vous et moi qui payons pour ça.
Les boys, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables nous a préparé une question quiz. J'ai le goût de commencer avec Mathias Turcotte. Okay. Notre journaliste sur la route qui n'est pas sur la route aujourd'hui. Il y a combien de gens qui travaillent pour l'État? Donc, le municipal, le provincial et le fédéral. Il y en a combien qui auront un fonds de pension de l'État?
De l'État québécois qu'on parle.
Fédéral aussi.
OK, au Canada au complet.
Ouais.
Hey my God.
Dans le Québec, là. Dans le Québec, mais...
Dans le Québec, mais au fédéral et au provincial.
Et au municipal.
OK. Je dirais 2,75 millions. Ouais. Ben,
Moi, j'aurais été à deux Québécois sur 10 qui travaillent pour l'État. Donc, le municipal, le provincial et le fédéral. J'aurais dit 2 Québécois sur 10. T'aurais dit quoi, toi?
J'aurais été un petit peu plus... Non, 2...
T'as des professeurs, t'as des infirmières, tout le monde dans le système de santé, tout le monde dans le système d'éducation.
Mmh. Ouais, 3 sur 10, ça me tente.
Nick?
Un peu plus que ça, ben 3 sur 10, on est plutôt à 24 % de l'ensemble des travailleurs québécois qui travaillent pour le gouvernement.
Un Québécois sur 4.
C'est énorme.
Exactement. On parle vraiment du secteur. Donc, j'ai donné le fameux chiffre 609 000 personnes. Ça, c'est les ministères plus le secteur parapublic. On a aussi l'ensemble des municipalités du Québec. C'est pas loin de 111 000 personnes. Et après ça, il faut rajouter que pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, il y a pas loin de 360 000 personnes qui travaillent présentement. Et il y a pas loin de 68 000 de ces personnes-là qui se retrouvent au Québec, soit dans la région de la capitale nationale, à Gatineau, proche d'Ottawa, ou sinon dans le reste du Québec comme tel. C'est énorme. Puis malheureusement, on est une des provinces où est-ce qu'on a le plus, justement, là, de travailleurs dans le secteur public comme tel, quand on se compare avec les autres provinces. En fait, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique font tous meilleure figure que nous là-dessus. C'est une démonstration, malheureusement, donc c'est des données qui nous viennent de Statistique Canada, mais c'est une démonstration qu'au cours des dernières années, la fonction publique à tous les niveaux, donc c'est pas juste Éric Girard puis François Legault qu'on doit pointer du doigt pour l'explosion des coûts de la fonction publique. Il y a d'autres paliers gouvernementaux qui sont à pointer du doigt. On sait qu'un effort au niveau fédéral pour réduire les effectifs présentement, sous Mark Carney, ça a été annoncé dans le dernier budget. Il y a un effort aussi présentement, c'est auprès de la présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, qui, comme je disais tantôt, est supposé couper 2000 postes cette année, 3000 d'ici l'année prochaine. Donc, il y a quand même un effort à ce niveau-là. Il n'y en a pas vraiment qui a été fait au niveau municipal. À Montréal, là, il y a une soixantaine de postes qui ont été coupés jusqu'à maintenant. Mais dans l'ensemble du milieu municipal au Québec, il n'y a pas vraiment eu de réajustement à ce niveau-là.
Mais un Québécois sur 4 qui bénéficie de fonds de pension, c'est moi, je suis très heureux pour eux autres, là, mais c'est parce qu'il faut les soutenir, ces fonds de pension-là, puis ils s'en payent une partie. Mais pour le reste, là, l'espérance de vie des gens a augmenté de façon incroyable. T'sais, ils vont prendre leur retraite à quoi? 60, 57, 60, 65? Vont vivre jusqu'à 80, 85, 90, faut le pensionner. Hey, c'est de l'argent, là!
C'est de l'argent, puis en plus, il faut rappeler que les employés du secteur public touchent un salaire qui est environ 4,8 % plus élevé que leur équivalent dans le secteur privé. Donc, non seulement c'est de l'argent, mais en plus, ils empochent un peu plus que ceux qui payent ces fameux salaires-là, parce qu'inévitablement, le public dépend du privé, sans dire qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires, sans dire qu'on n'a pas besoin d'employés municipaux. C'est pas ça mon point. C'est est-ce que c'est soutenable pour les contribuables présentement, puis l'état des finances publiques à Ottawa, à Québec, dans les municipalités, ça démontre que c'est malheureusement pas le cas. Donc, nous, on a sorti un communiqué ce matin pour rappeler ces chiffres-là et demander à tous les paliers gouvernementaux au Québec, peu importe qu'ils soient fédéral, provincial ou municipal, de faire leur part, de réduire les effectifs, puis de justement dégager des économies qui leur permettent de rembourser leurs dettes, réduire le poids de la dette et faire en sorte qu'on ait de la marge de manœuvre pour les contribuables, parce que présentement, c'est pas pour rien si on en a pas à tous les paliers.
Merci d'être là pour nous autres, Nick.
C'est toujours plaisir. À très bientôt.
Au revoir. Bye-bye. Nicolas Gagnon est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca.
Juste vous dire, présentement, la 40 en direction est, là, c'est au ralenti dans le secteur de Cap-Rouge. C'est entre route Jean-Gauvin puis la route 138 présentement qui c'est au rouge. Si vous avez des informations, 418-971-1021, ça se passe par texto.